BFM Business et 01 TV présentent De quoi je me mêle.
Il y en a François Sorel.
Un grand bonjour à toutes et à tous. C'est toujours un réel plaisir, sincèrement, que de vous retrouver tous les week-ends pour De quoi je me mêle, votre rendez-vous dédié à la tech. Sur tous les écrans de 01net et de 01tv, à la fois à la télé, sur la chaîne 01tv, sur YouTube, mais aussi sur 01net.com, en podcast, audio, vidéo, vous avez le choix, vous faites comme vous voulez. Et puis bien sûr, le week-end, la diffusion en bonus sur BFM Business, à la radio, à la télé. Avec au menu de ce De quoi je me mêle. Tout à l'heure, on va parler maison connectée avec mon invité. Vous connaissez tous le roi Merlin. Vous savez que le roi Merlin, au-delà de vendre des sacs de ciment, eh bien, est aussi sur le marché de la maison connectée. Ils accélèrent là-dessus avec leur projet Anki, qui est d'ailleurs plus qu'un projet. Hein. Ils ont lancé, là, il y a quelques jours, une box. On en parlera avec mon invité, un porte-parole donc d'Anki qui sera là. Je vous rappelle le hashtag DQJMM sur Twitter pour participer à la conversation de nos sujets tech. La page Facebook qui vous attend. Merci encore une fois d'être fidèle à De quoi je me mêle. Merci de faire chaque semaine De quoi je me mêle, eh bien, de mettre De quoi je me mêle en haut de tous les podcasts, que ce soit audio et vidéo dans la catégorie tech. Je vous en remercie. C'est parti, bienvenue à vous toutes et à vous tous. Et pour débuter, bien sûr, c'est le club de la presse IT. À ma gauche, Anthony Morel. Bonjour Anthony.
Bonjour François, bonjour à tous.
Anthony Morel, journaliste à BFM Business, qu'on retrouve aussi avec Estelle Denis sur RMC tous les jours. Et puis, bien sûr, à ma droite, c'est Nicolas Lelouch. Bonjour Nicolas.
Bonjour François, bonjour Anthony.
Salut Nicolas.
On va commenter ensemble l'actu tech et on va commencer par le métaverse. Vous savez que c'est un sujet qui nous fascine. Alors, qui nous fait soit rigoler, soit qui nous fascine en fait. Et cette semaine, c'est Facebook qui a dévoilé, Anthony, un gant haptique pour nous immerger encore plus dans ce métavers.
C'est ça. Moi, ça me fascine. Hein. Je suis dans le camp team fascine. Moi.
Ouais, oui,
plutôt dans le camp, je rigole.
Voilà, comme ça, on va bien s'entendre.
Moi, tout dépend. Des fois, ça me fait rire. Des fois, ça me fascine, en fait. Je suis un peu les deux côtés.
Non, mais Facebook, ils ont bien compris que la limite du métavers, c'est il va falloir de l'équipement. Il va falloir mettre ce gros casque de réalité virtuelle qui est encombrant, qui n'est pas toujours génial. Quand on a le casque, on veut interagir avec des objets. Aujourd'hui, il faut des manettes. Et ça casse le sentiment de réalisme et d'immersion, qui est le principe du métaverse, qui est vraiment de nous plonger dans un univers virtuel où on oublierait presque qu'on n'est pas dans la vie réelle, quoi, finalement. Et donc, ils ont dévoilé des premières images d'un gant, alors gant haptique, on appelle ça gant à retour de force. Alors,
c'est pas le gant,
c'est pas les moufles tricotées par mamie. Hein. Là, c'est vraiment bardé d'électronique, il est très encombrant, évidemment. Et c'est un gant qui va, en fait, vous permettre de toucher, de ressentir physiquement des objets virtuels que vous voyez à l'écran, que vous voyez dans votre casque de réalité virtuelle. Alors, par exemple, dans leur vidéo de démo, ils disent un puzzle, genre un Jenga, vous savez, le puzzle en bois, là, eh bien, vous allez, en saisissant, en tendant la main, sentir la pièce de bois sous vos doigts. C'est-à-dire, vous sentirez l'angulosité de la pièce, vous sentirez même la structure potentiellement du bois. Si vous imbriquez deux pièces, vous allez avoir le petit clic de satisfaction que vous avez vraiment quand vous résolvez un vrai puzzle. Et puis, voilà, vous pouvez imaginer des touches de piano virtuelles, vous allez les sentir sous vos doigts, les cordes d'une guitare, etc., etc. Alors Facebook dit ça va prendre du temps, aujourd'hui on n'est pas prêt, déjà on a vu la taille du gant, hein. C'est vraiment un truc vraiment maousse avec des fils partout. À l'intérieur vous avez des actuateurs, donc des micromoteurs qui vont diffuser via des valves de l'air à haute pression. C'est ça qui va créer en fait cette illusion qui va tromper votre cerveau, qui va lui donner la sensation que vous êtes en train de toucher quelque chose
avec une latence très faible aussi, parce qu'il faut que ça corresponde à ce qu'on voit.
Exactement. Donc en termes d'électronique, de miniaturisation, évidemment tout ça va prendre de microfluidique aussi, ce sont des choses sur lesquelles ils travaillent, de textiles intelligents, ça va prendre probablement quelques années. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir que les équipes, alors c'est le Reality Lab, hein, qui est la division Facebook qui s'occupe de tout ce qui est réalité virtuelle et tout ce qui est des projets un petit peu futuristes, un peu foufou, eh bien, commencent d'ores et déjà à travailler sur ces gants qui permettraient effectivement de se plonger encore plus dans cet univers façon Ready Player One de Steven Spielberg. Parce que c'est vraiment ça, là, pour le coup. Hein.
Ouais, c'est clair. Bon, on en parle souvent, c'est un peu notre référence et ça va devenir un peu la Bible de ce métaverse, hein, ce film-là. Nicolas.
Oui, la technologie en elle-même, elle est impressionnante. Et là-dessus, c'est impossible de dire le contraire. On peut être moqueur envers le métaverse tout en reconnaissant que c'est quand même bluffant de pouvoir reproduire des sensations qu'on aurait avec une main dans un univers virtuel. Ça répond aussi à une problématique, c'était quand on voyait les démonstrations de Mark Zuckerberg, il avait l'air de pouvoir interagir avec tout dans son métaverse, sauf qu'il n'avait rien sur lui, donc oui. Comment c'était possible? Il y a justement maintenant cette option des gants qui est intéressante. Après, moi je me pose toujours la question de l'envie, de la praticité, de tout ça, c'est que dans l'imaginaire de Meta, de Facebook, ils pensent qu'on va rentrer chez nous le soir, qu'on va mettre un casque de réalité virtuelle, qu'on va mettre des gants, potentiellement des chaussures un jour, je ne sais pas, et qu'on va donc se retrouver à plutôt qu'être sur son téléphone, à surfer sur les réseaux sociaux, à se balader dans un monde virtuel, à aller se promener à Barcelone avec des amis. J'ai du mal à imaginer quelqu'un qui rentre du travail et qui a juste une seule envie, c'est de s'équiper de vêtements virtuels comme ça, ultra encombrants, uniquement pour tout ça. Je continue de penser que le métaverse en lui-même est une version trop extrême d'Internet et que ça ne va pas forcément... moi, en tout cas, personnellement, ça ne me donne pas envie, uniquement sur des occasions ponctuelles, on va dire. Mais autant ce gant, je trouve, par contre, il aurait un intérêt sur le jeu vidéo. C'est que le jeu vidéo en réalité virtuelle ultra poussé grâce au métaverse, pourquoi pas, bah ça, c'est génial. Mais le jeu vidéo, j'ai envie d'y jouer une heure, deux heures, de temps en temps, mais pas tous les soirs.
Pas tous les soirs. Mais pourquoi pas tous les soirs? Si, moi je pense que ça dépend en fait des expériences qu'ils vont être capables de nous proposer. Si effectivement c'est juste des petits jeux comme ci comme ça, avoir sa maison virtuelle dans le métaverse, bon. Et s'ils arrivent à trouver des killer apps, des trucs qui font qu'on a réellement envie justement d'y passer des heures, mais avec tous les dangers, que je dis pas que c'est bien, mais oui, ça peut comporter des dérives. Mais je dis que l'enjeu stratégique pour Facebook, ça va être ça. C'est vraiment de créer ce sentiment de présence qui fait que, en fait, t'as plus envie de quitter le métaverse, t'as envie d'y passer le plus de temps possible, avec toutes les dérives que ça peut comporter. Mais moi, je pense que ça peut devenir une réalité. C'est-à-dire que si on arrive à augmenter, je pense aussi le niveau de réalisme, parce qu'aujourd'hui, quand on a un casque de réalité virtuelle, bon, les images sont pas quand même extraordinaire. Il faudrait avoir une dose de photoréalisme, avoir au moins la qualité d'image que tu as sur une PlayStation 5 ou un PC assez puissant.
Ça viendra.
Ça viendra, voilà, ça viendra, exactement. Forcément. La puissance de calcul, forcément,
on va y arriver. Aura du photoréaliste.
Photoréaliste. Et sur le gant, tu vois, alors effectivement, il y a toujours ce truc où on a un gros casque, on a ces gants qui sont massifs, mais Facebook a dit clairement, nous, ce qu'on veut, c'est avoir une paire de gants qui, à terme, soit une paire de gants souples, quoi, comme celle qu'on porte dans la rue pour se protéger du froid. Les casques, c'est pareil, ils vont devenir beaucoup moins encombrants. On aura aussi des lunettes de réalité virtuelle qui seront un peu aussi un compromis, c'est-à-dire qu'on n'aura plus cette espèce de gros machin, on aura des lunettes qui pourront ressembler à des lunettes normales et qui permettront là encore d'avoir des expériences de virtualité qui vont se superposer au monde réel. Donc moi je pense que ça dépend vraiment des applications qui peuvent nous créer, quoi. Mais en tout cas j'ai bien envie de tester, ça donne envie de tester,
c'est clair. Évidemment que surtout qu'on arrive à miniaturiser tout ça.
C'est clair.
Sûr que ça va être une étape importante, mais ça donne envie de tester.
Bien sûr, je reste
sceptique, en tout cas je passe déjà beaucoup de temps sur mon téléphone, je pense que c'est aussi le cas de beaucoup de personnes qui nous écoutent. Il y a de plus en plus de politiques publiques qui essayent de viser justement la réduction de l'addiction au numérique. Est-ce que ça va pas dans le sens?
Non, c'est sûr que ça va l'accélérer, c'est certain.
Là, je suis pas forcément convaincu.
Direction Séoul maintenant, on reste toujours dans le métaverse, Anthony, avec donc la capitale coréenne, qui va être la première à entrer dans le métaverse.
C'est ça, métaverse Séoul, ça va être le nom de la ville de Séoul, mais dans le métaverse, c'est-à-dire qu'ils ont annoncé, c'est les autorités de Séoul qu'ils veulent effectivement créer une municipalité virtuelle, c'est-à-dire services municipaux, des services publics qui seraient accessibles via un casque de réalité virtuelle. Par exemple, tu veux déposer une plainte, tu vas mettre ton casque, tu vas te retrouver face à un agent municipal sous forme d'avatar et tu vas pouvoir déposer ta plainte. Bon, là, on va loin aussi, on est d'accord. Ouais. Hein, mais en tout cas, alors bon, on est en Corée du Sud qui est l'un des pays, si ce n'est le pays le plus connecté au monde, donc c'est pas complètement illogique qu'il soit en pointe sur ces sujets-là. Mais ça montre bien que, voilà, c'est pas seulement les grandes entreprises, les Facebook, les Microsoft, les Epic Games qui veulent nous amener dans le métaverse, ça intéresse aussi maintenant, y compris les municipalités, les États potentiellement.
Après, c'est vrai que là, ça me fait rigoler parce que je me dis, mettre un masque de réalité virtuelle pour aller déposer une plainte, ça paraît un peu surréaliste. Mais ce qui est intéressant, c'est d'essayer, en fait. D'essayer d'explorer des pistes.
Des trucs,
peut-être laisser tomber après parce que, voilà, ils vont aller trop loin. Mais en tout cas, on se sert de ces outils-là pour voir jusqu'où on peut aller, si les gens adoptent, en fait, cette technologie. Donc, pourquoi pas.
Non, bien sûr, je te rejoins complètement là-dessus. C'est que c'est bien d'expérimenter, de voir ce qu'on est capable de faire. Après, une nouvelle fois, j'avais un peu l'impression que les tendances dans les pays très connectés, ça allait plus vers les super applications, un peu à la manière de WeChat en Chine, qui permet au final de faire ça, de déposer des plaintes, de prendre rendez-vous avec un conseiller bancaire. Pourquoi, en fait, je n'arrive pas à voir la plus-value qu'aurait le métaverse par rapport à une super app qui fait tout. Une application gouvernementale qui permet de déposer une plainte depuis son téléphone, qu'est-ce qu'elle fait
parce que là, tu as un sentiment de présence, tu vas
oui,
voir
mais
quelqu'un.
Oui, c'est un sentiment. Après, c'est, oui, tout voilà. à fait. Est-ce que ça manque vraiment aux gens? Peut-être qu'il y a des gens, peut-être ça dépend aussi des catégories d'âge hein, et de plein de choses, qui n'aiment pas justement l'aspect inhumain du numérique et ouais. pour qui le métaverse pourrait répondre à des problématiques. Mais je ne suis pas convaincu à titre personnel, non. peut-être que je me trompe, mais comme toi par contre Anthony, j'ai hâte d'essayer, et ouais. j'ai hâte d'avoir la possibilité d'avoir un casque et d'aller visiter ce métaverse.
Et ça va poser aussi une question, c'est celle de l'interopérabilité de ces métaverses.
Bien c'est-à-dire sûr,
que absolument.
Si tout le monde se met à créer son métaverse dans son coin, etc., il y a un moment, ce qui peut être vraiment intéressant, c'est si on arrive à combiner tout ça oui, et avoir une expérience
un standard. En quelque sorte.
Exactement, et ça va être un des gros enjeux.
Oui, bien sûr.
Alors avec qui sera l'acteur qui va standardiser tout ça voilà, peut-être Facebook.
Voilà. Ouais. On verra, sans doute dans quelques années. On enchaîne avec quelque chose peut-être d'un petit peu plus concret, qui est une énorme actualité qu'on n'a pas vu arriver, en plus. Mmh. C'est du côté d'Apple, qui pour une fois a réussi à garder le secret. Apple va accélérer sur les pièces détachées et permettre, en fait, à tout le monde de pouvoir réparer son iPhone. Nicolas, c'est une petite révolution.
C'est tellement étonnant qu'on a du mal à y croire encore, parce que c'est une annonce qui commencera en 2022 et qui concrètement consiste au lancement d'un nouveau magasin qui s'appellera le Self Service Repair, donc Apple Self Service Repair. Et sur ce magasin, vous ne pourrez pas acheter des iPhones, vous ne pourrez pas acheter des Macs, vous pourrez acheter des écrans, des batteries, des haut-parleurs, des appareils photo. Et avec ça, Apple vous livrera des manuels, des tournevis, des outils pour vous expliquer comment faire la réparation vous-même. Et c'est étonnant parce qu'Apple, c'est une marque quand même qui, pendant longtemps, a bien compliqué la vie des réparateurs en ajoutant pas mal de choses, de composants, de capteurs qui désactivaient éventuellement, par exemple, le fonctionnement de Touch ID, de Face ID, en fonction après une réparation.
Cette histoire-là.
Il y a eu plein de scandales dans le genre. Apple n'autorise que certains revendeurs à effectuer certaines réparations. Les autres n'y ont pas le droit. Il faut passer des brevets de certification. Et là, aujourd'hui, ils disent, leur message il est assez simple, c'est que tout le monde va pouvoir faire ses réparations à la maison, mais pas non plus tout le monde, parce qu'il va falloir une certaine connaissance. Donc l'idée, c'est qu'il laisse cette possibilité aux gens, tout en pensant que finalement, pas grand monde l'utilisera.
Bon, c'est, Anthony ouais.
Bon, je pense qu'il ne faut pas se voiler la face. Alors, soyons clairs, c'est une vraie avancée. Moi, je trouve que c'est très positif qu'ils permettent ça. Après,
donc,
faut
en gros,
essayer...
pour qu'on comprenne bien, je pète mon écran de mon iPhone, ouais. Je vais pouvoir aller dans un Apple Store.
Même pas un Apple Store,
pas besoin.
On commande sur le site self-service.
Je commande sur le site, je vais commander donc la pièce originale.
Ouais,
donc,
tout à fait.
Voilà.
Tu auras un petit manuel.
J'ai un petit manuel, des petits outils.
Exactement. Et on va t'expliquer comment le réparer. D'accord. Et faire bricoler toi-même. Alors, ouais. Alors que jusqu'ici, ce qui est quand même super marrant, c'est que ça, c'est vraiment un virage à 180 degrés. C'est-à-dire
absolument.
Que Apple te disait exactement
oui,
le contraire.
Oui,
jusqu'ici,
pas,
c'était ne touchez pas à votre smartphone. Exactement. Et c'était, c'est dangereux. Si vous touchez à la batterie, vous allez créer. Mais oui, vous allez générer des incendies, vous allez vous blesser, ne faites surtout pas ça. Et si vous le faites, attention, hein, c'est la garantie qui saute. Et maintenant, du jour au lendemain, ils te disent non, mais en fait, ça va, il n'y a pas de souci. Et en fait, pourquoi ? Il faut essayer de comprendre la logique derrière tout ça. En fait, c'est la pression. Ils répondent à la pression. Ils ne le font pas parce qu'ils sont devenus tout à coup, ils ont eu une sorte de nucléaire, de lucidité, ouais. de philanthropie.
D'un coup, ils n'ont pas plongé dans le métavers.
Voilà, ils ont disant, peut-être ils que
sont,
si, mais bon.
Ils sont concurrencés par Fairphone qui monte et
oui,
ils disent
ça,
non,
ça, c'est
trop dangereux.
Trop dangereux. Trop dangereux.
Non, mais il faut reconnaître que Fairphone a été précurseur. Ah,
oui,
ils ont peut-être
voilà.
bougé l'industrie d'une certaine
c'est
manière.
C'est ça. Ça n'a pas tellement fonctionné commercialement, mais quand même, bravo à ce point de vue-là. Non, mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une double pression là, sous laquelle est Apple. Un, la pression des régulateurs. C'est-à-dire que de plus en plus, aux États-Unis notamment, ils ont eu un gros coup de une grosse soufflante de la FTC, la Fédération anti de problèmes de concurrence, pour dire attention sur la réparabilité, Apple, il y a des soucis, il faudrait s'améliorer. Joe Biden, enfin l'administration américaine, dit on va forcer les géants de la tech à permettre aux gens de pouvoir réparer leurs appareils électroniques eux-mêmes. Donc, Apple se dit, bon bah, on va pas attendre qu'il y ait une loi qui nous oblige à le faire. En termes de com, c'est mieux si on prend les devants. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est la pression des consommateurs eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un mouvement très fort, alors aux États-Unis, mais aussi en France, de laissez-nous réparer nous-mêmes nos appareils pour des raisons économiques, évidemment, pour des préoccupations écologiques aussi. Il y a ça qui vient. Et ce qui est intéressant, c'est que un des porte-voix de ce mouvement, alors qui s'appelle le Right to Repair aux États-Unis, donc le droit à réparer soi-même, c'est Steve Wozniak, donc le cofondateur d'Apple, qui a été très, qui a vraiment parlé, qui a pris la parole publiquement sur ce sujet-là. Et donc voilà, Apple est quand même pris sous cette pression-là, et donc est forcé d'une certaine manière de s'adapter et de changer. Mais voilà, mais encore une fois, très bien, hein, tant mieux. Bravo.
Et puis un aspect positif, une information positive concernant Apple, parce qu'entre les Apple Store, les App Store, les commissions 30% qui sont quand même impopulaires, etc.
Ah bah c'est clair.
Ils reprennent un petit peu du poil de la bête avec une information, on va dire, positive.
Exactement.
Et il y a une chose intéressante là-dedans que j'ai envie d'ajouter, c'est que, vous savez, ils sont très engagés sur l'écologie, sur plein de choses, et jusqu'à maintenant, leur argument était qu'en magasin, on recyclait les composants. Et là, ils ont pensé à ça, et c'est assez rare venant d'Apple, c'est que quand vous renverrez votre écran cassé, votre batterie en panne, on vous enverra un crédit à consommer sur l'Apple Store pour acheter autre chose.
D'accord.
Donc c'est quand même assez intéressant, et c'est une initiative qui, à mon avis, va inspirer la concurrence.
Alors,
c'est une très bonne nouvelle.
Moi, je pense que ça va pousser le reste du marché à s'adapter quand Apple prend une décision.
Bien sûr,
c'est
les autres.
Tout le monde réagit, les autres suivent, ça c'est une évidence. Deux petits points quand même à préciser. Le premier, c'est que pour l'instant, c'est aux États-Unis seulement.
Oui.
Alors ça va sûrement arriver dans la foulée.
De ce qu'avait l'air de dire Apple, ça varie très vite.
Voilà, donc ça va arriver. Et la deuxième chose, c'est que Apple n'a pas donné les prix non plus. Quand on voit le prix de la chiffonnette,
ils disent que ça sera les mêmes prix que pour les revendeurs. Maintenant, les prix revendeurs ne sont pas connus officiellement. Donc ça pose évidemment des questions. On commence aussi que par les iPhone 12, 13 et les Mac M1. Les autres produits sont censés être concernés, mais quand, on ne sait pas. Et moi, j'ai quand même l'impression qu'on va surtout aller vers un modèle où les prochains produits Apple vont être peut-être plus faciles à réparer, donc ça va permettre à Apple de développer ce modèle-là, mais que les anciens ne seront peut-être pas les mieux servis par ce programme.
Tu as raison, parce qu'il ne faut pas oublier que un iPhone, c'est une usine à gaz, déjà. Ça se joue tout au millimètre, et encore, quand je dis millimètre, ça va être dixième de millimètre près. Et pour avoir vu un iPhone démonté, franchement, ce n'est pas donné à tout le monde de remplacer un écran ou de changer une batterie.
Il y a certains composants qui ne sont pas faciles à atteindre. C'est clair.
Et puis vous pouvez même le péter, votre iPhone.
C'est un risque quand même.
Bien sûr, comme tout est au millimètre près, vous forcez un peu sur la batterie, vous refermez, ça peut péter l'écran, ça peut bouger les antennes et vous ne pouvez plus avoir de Wi-Fi. Enfin bon, c'est un truc. Bon voilà, donc. Un petit bémol concernant cette annonce. On n'est pas encore sur le Fairphone, quand même, chez Apple.
Ouais.
Un mot sur Arcos. Arcos, une marque qu'on connaît depuis, oulala, à mon avis, pas loin d'une vingtaine d'années, avec les tablettes.
Tu te souviens des tablettes
Bien
avant
sûr.
L'iPad.
Les lecteurs MP3. Est-ce que tu te souviens des premiers lecteurs MP4. Des premiers lecteurs, voilà, MP4, ouais. MP3, lecteurs multimédia. MP4.
Et les tablettes, moi, je me souviens, c'est quand les iPads sont sortis, c'était, mais attendez, mais nous, on était là avant l'iPad,
on
avait des tablettes. Et c'est vrai, techniquement, c'est vrai. Après,
c'est vrai.
C'était pas les mêmes tablettes.
C'était pas les mêmes tablettes.
En tout cas, moi, ça me donnait envie avant. Je saluais sur les catalogues Arcos en me disant, ah, ça a quand même super cool, j'en veux une.
Voilà, bon, Arcos, il y a eu des hauts et des bas, beaucoup plus de bas que de hauts quand même, qui a souvent cherché sa voie. Et là, Anthony et Nicolas, visiblement, ils se lancent dans les objets connectés, mais avec une particularité qui est quasi magique, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de les recharger, ces objets connectés.
C'est fou, c'est-à-dire qu'on va pouvoir recharger son smartphone, sa tablette, son ordinateur portable à distance. Il y a cette citation qui est très connue, vous connaissez sûrement, que j'adore, moi, de Arthur C. Clarke, l'auteur de science-fiction. Toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie. Et là, on est exactement là-dedans. C'est-à-dire que tu as ton smartphone dans les mains, il est relié à rien et tu le vois qui se recharge sous tes yeux. Ce qui est quand même pas mal, dans l'absolu.
On avait vu ça au CES, moi je me souviens, il y a quelques années.
C'est impressionnant.
Il y avait une start-up israélienne qui proposait ce type de truc et j'étais fasciné. Je suis resté une heure sur leur stand à essayer de comprendre s'il n'y avait pas un gadget, un câble ou un truc comme ça.
Et David Copperfield, où es-tu ? Non, mais c'est vrai.
Et en fait, c'était un peu comme le photovoltaïque.
Bien sûr.
Il y avait une lampe au-dessus qui envoyait donc de l'énergie, en quelque sorte, comme l'énergie du soleil. Il y avait un capteur capteur sur le téléphone qui faisait qu'il récupérait cette énergie.
Ah là, c'était du solaire,
ça le rechargeait. Enfin, quasi du solaire. Ils n'expliquaient pas. Il y a peut-être une petite modification, mais en tout cas, ça faisait penser.
Alors là, la techno est différente. En gros, alors ils sont alliés. C'est pas eux qui ont développé la technologie. Ils sont alliés à une startup qui s'appelle Osia, qui travaille là-dessus, qui était présente au CES d'ailleurs, et qui a mis au point un petit boîtier. Ça ressemble à une box internet, un peu. Ça fait 20 cm sur 20 cm, équipé de 500 antennes millimétriques. Et ce sont ces antennes qui vont envoyer des ondes qui vont en fait se transformer en électricité et qui vont charger à distance. Alors il faut que le smartphone ou que l'appareil en question soit équipé d'une puce spéciale pour recevoir, comme pour recevoir le Wi-Fi, le Bluetooth, etc. Il faut avoir la puce, mais bon, qu'on peut intégrer dans plein d'objets évidemment. Et à ce moment-là, eh bien, ça va recharger un petit peu comme les chargeurs à induction, sauf que là, tu n'as plus besoin de poser sur un galet ou sur une borne. Ça se fait vraiment à distance. Alors selon, je ne l'ai pas testé, hein, en vrai, leur promesse, c'est que ça va couvrir une zone de 100 mètres carrés, enfin un appartement de 100 mètres carrés, par
c'est
exemple.
C'est pas mal quand même.
Ce qui est pas mal. Alors sachant que comme pour le Wi-Fi, enfin, plus t'es loin de la borne,
moins ça va recharger vite.
Voilà. Donc c'est une techno qui est intéressante, en fait, qui est pas nouvelle. Hein, c'est une sorte, je pense, on en parle même depuis Nikola Tesla. Hein, c'est-à-dire Tesla, les premières expérimentations de l'électricité sans fil, c'était à la fin du 19e siècle. Et bien ça, ces technologies qu'on voit arriver, qu'on commence à voir arriver, eh bien sont un peu les héritières finalement des premières expérimentations de Tesla.
Avec un rendement qui ne doit pas être terrible en revanche.
Alors le gros problème de cette technologie qui a quand même des détracteurs, c'est celui-là. C'est la déperdition d'énergie. Oui. Plus évidemment, comme pour l'induction d'ailleurs, oui, hein, mais encore plus que l'induction.
Alors que on est quand même sur du contact.
Exactement. Donc là, tu imagines, plus tu t'éloignes du chargeur avec l'appareil à charger, plus évidemment tu vas perdre en efficacité, en efficience. C'est un peu comme si tu essayais de remplir un verre d'eau avec un tuyau d'arrosage à 15 mètres de long. Quoi.
C'est ça.
Ok, tu vas le remplir,
mais tu vas
quand même foutre de l'eau un peu partout à côté.
Et tu vas
mettre une heure pour le remplir. Donc là, au moment où on parle de transition énergétique, oui, gaspillage d'électricité, bon, ouais, est-ce que c'est la technologie la plus efficiente ? Encore une fois, il faudra tester. Laissons sa chance au produit. Mais bon.
Voilà, et puis après, c'est vrai que ça apporte une vraie praticité parce qu'on va expliquer là, typiquement. On se retrouve avec des objets connectés dans la maison, ça peut être une caméra, des capteurs, etc. Enfin bref, vous installez ça, il n'y a pas de fil, donc c'est top quand même. Vous posez cette petite box dans votre maison et tout se recharge. Vous n'avez plus besoin de recharger quoi que ce soit. Ça peut être pratique pour certains usages, en fait.
Et puis ça te débarrasse des fils et des chargeurs. Ouais. Quoi, c'est surtout ça, voilà.
Oui, une grosse limitation à ça pour l'instant, c'est que ça ne concerne que les petits objets, smartphones, tablettes, appareils photo, caméras,
qui ont besoin de peu d'énergie.
Xiaomi a annoncé une technologie similaire qui était censée être commercialisée sans doute l'année prochaine, qui utilise 144 antennes et qui limite la recharge à 5 watts. Donc 5 watts, c'est pas beaucoup. Et tout ça, en fait, ça élimine un secteur assez important, c'est l'électroménager. Et moi, je pense qu'on a besoin aujourd'hui d'éliminer les fils sur les consoles de jeux, sur les téléviseurs. Pourquoi pas, hein, sur des petits micro-ondes qui pourraient facilement transporter. L'idée, ça serait, si on arrive à éliminer tous les câbles de la maison, bah, on aurait déjà des environnements beaucoup plus clean et on faciliterait la vie de beaucoup de personnes. Mais je pense qu'on en est encore assez loin et qu'une télé ne sera pas alimentée par la recharge à distance avant quelques années.
Ah,
donc c'est un peu dommage, mais en tout cas, c'est une avancée intéressante.
Ça sort quand, tout ça pas trop.
Là, ils ont annoncé, alors je ne sais pas la sortie exacte, ce qu'ils ont annoncé, la grande première, entre guillemets, parce qu'il y a une thématique qu'on n'a pas abordée, c'est les conséquences sur la santé, parce qu'on n'a pas forcément
dit
dans un froid micro-ondes géant. Donc forcément, là, les anti-5G sont en PLS. Qu'est-ce que c'est ? Non, mais cela dit, c'est des interrogations qui sont tout à fait légitimes, vraiment. Et alors, pour la première fois, en fait, cette technologie, parce que tu as raison de le souligner, Nico, Xiaomi travaille dessus aussi, Motorola également. Pour la première fois, ils ont eu une certification CE et une certification aussi de la FCC, donc le gendarme des télécoms américains, qui en général sont plutôt tatillons sur ces questions, ce qui semble montrer que ça va dans le bon signe, dans le bon sens. Donc peut-être faudra faire des tests supplémentaires, etc. Mais on va dire que ça avance plutôt dans la bonne direction. Ce qui m'expliquait, alors je ne sais pas exactement comment scientifiquement c'est possible, mais c'est que en gros, l'émetteur, donc la borne, vise la puce qui se trouve dans le smartphone, par exemple.
Elle va le détecter tout seul, en fait.
Voilà, et en fait, elle va rebondir comme une boule de billard sur les surfaces, sur les murs et sur les personnes, donc sans traverser. Voilà.
Oui.
Donc,
ça s'envoie pas de partout, ça reconnaît les cibles, je me rappelle en effet.
Et ça, apparemment, c'est la propriété intellectuelle et la valeur ajoutée de leur technologie, elle se trouve dans ce système-là.
Très intéressant à creuser. Hein. C'est un sujet, moi, qui me fascine. Ouais, vraiment. Enfin, imaginez demain avoir un réseau électrique sans fil dans toute la maison. Pourquoi pas même dans la vraie vie, dans la nature. Hein. Imaginez demain, à la place de la 5G, vous avez des émetteurs qui vous fournissent de la connectivité et de l'énergie. Ça serait révolutionnaire.
Pour l'automobile enfin, aussi, il y a plein de secteurs ouais. sur lesquels ça pourrait être intéressant.
Là, ça serait un truc
on en est loin
ça
encore,
de dingue,
mais bon. De fou.
On enchaîne avec un anniversaire. On fête bon anniversaire, joyeux anniversaire à la Xbox de Microsoft. 20 ans pour la Xbox. On se souvient, alors pour les plus anciens d'entre nous,
pourquoi
la première
tu
Xbox.
Ben parce mais oui, que... je m'en souviens aussi. Ouais. Bah oui, Nicolas, il s'en souvient moins, forcément.
Nicolas, t'étais pas grand à l'époque. Hein.
J'étais petit.
T'étais tout petit, mais franchement, c'était quand même un... Ça, moi, je me souviens très bien de cette période-là. Hein. La première Xbox était une vraie réussite technologique. Et puis surtout, c'était le contrebalancier de la PlayStation.
Ah ben exactement, c'était ça. Enfin, tout l'enjeu d'ailleurs pour Microsoft, c'était ça. C'était de concurrencer la PlayStation. Et c'est d'ailleurs ce qui a convaincu Bill Gates d'y aller. Parce que Bill Gates, au début, ne croyait pas à ce projet de Xbox. Quand on lui a présenté une console de jeu, où il n'y avait même pas Windows à l'intérieur, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?
C'est ça qui était étonnant.
Windows,
oui.
Quelle horreur.
Mais non, pas Windows, quelle horreur. Et c'est vraiment là-dessus, il a dit, mais ça va à l'encontre de tout ce que j'ai construit avec cette entreprise. Apparemment, il y a eu une réunion très houleuse, et l'argument qu'il a emporté, c'est de dire, ouais, mais regarde Sony, comment ils s'en sortent là en ce moment. Et c'est apparemment ce qui a convaincu Bill Gates de se lancer, et de lancer cette console qui, comme tu le dis, c'était quand même une petite révolution technologique. Enfin, vraiment, c'était une réussite à l'époque. C'est-à-dire qu'elle se différenciait de ce qui existait jusqu'à présent, de plusieurs manières. D'abord, c'était... fait une sorte de PC intégré, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment un gros disque dur, il n'y avait plus besoin d'utiliser des cartes mémoire comme sur les autres consoles, par exemple.
Elle était très puissante.
Très puissante, des lancements de jeux très rapides, beaucoup moins de temps de chargement que sur les concurrentes. Première console HD, et puis la première console aussi qui pouvait se connecter à Internet et qui pouvait permettre de faire du jeu en ligne sur console. Il y avait du jeu en ligne sur PC déjà à l'époque, mais sur console, c'était une première. Et de ce point de vue-là, c'était un peu l'ancêtre de l'online gaming qu'on pratique tous aujourd'hui. Donc quand même, elle avait des points qui, lorsqu'on les regarde rétrospectivement... Quand même pas mal.
Ouais, pas mal. Moi, je me souviens, il existait même des petits accessoires rigolos, comme par exemple le Wi-Fi. On achetait un petit boîtier qu'on connectait à la Xbox qui permettait d'avoir du Wi-Fi. Parce qu'il y a 20 ans, le Wi-Fi, c'était une technologie naissante, finalement. Et c'était dingue. Donc, tu avais ce gros boîtier avec une petite antenne sur ta console. C'était rigolo. Tu as des souvenirs, toi, de la Xbox ou pas ?
De la toute première, pas beaucoup. Après, leur histoire est intéressante, je trouve. Déjà, leur approche historique a toujours été de faire une console multimédia. Qui ne sert pas qu'à jouer, mais qui remplace en quelque sorte le décodeur télé à la maison. Ils sont peut-être allés trop loin d'ailleurs sur ça avec la Xbox One, qui a été un flop parce qu'ils voulaient complètement remplacer la télé avec ça. Personne n'en voulait, ils sont revenus en arrière. Et aujourd'hui, ils ont une approche un peu plus vidéoludique.
Vous vous souvenez quand même de la période Kinect, hein, qui n'a pas été quand même le plus gros succès de Microsoft.
Il y avait des trucs innovants. Ouais, c'est la technologie ça, Kinect. Aujourd'hui, on l'a dans les iPhones.
Mais ça fonctionnait bien.
Mais les développeurs n'ont pas réussi à s'accaparer de cette technologie.
Ça a pris. Ils ont tenté beaucoup de choses, Microsoft, avec la Xbox, mais si je dois reconnaître, me souvenir vraiment de quelques succès majeurs, ça serait le lancement du jeu online. Hein, c'était les premiers avec l'abonnement Xbox Live à parier sur un jeu payant. On disait, mais quelle erreur de faire payer les gens pour jouer. Au final, ça a fonctionné. C'est le modèle qui a repris toute l'industrie aujourd'hui. Et c'est finalement eux qui sont en train de changer encore une nouvelle fois, la manière dont fonctionne le secteur du jeu vidéo. Il y a eu le Game Pass, qui est cet abonnement avec plein de jeux différents.
Je sais pas
et
si
le
vous...
cloud, le xCloud, là, qui est en train de changer et qui prouve que Microsoft a vraiment une vision très différente de la concurrence sur le jeu
vidéo.
Alors
là, on voit la 360 hein, qui est arrivée plus tard.
Génial. C'était
une très belle console d'ailleurs. Super console. Moi, ce qui me fait rire avec ces images d'archives, c'est que les premiers jeux, on voit les rappeurs stars de l'époque, etc. Il y avait des fils à la manette. Fils à la manette.
Forcément. Quoi. Oui, hein. 2001. Donc, ça nous... Ils en ont vendu 25 millions de la première Xbox, ce qui est pas mal. Hein. C'est plus que la GameCube, par exemple, de Nintendo, qui était quand même un bon succès, une super console. Hein. Alors, c'est beaucoup moins que la Wii, je crois que c'est autour de 100 millions. La Switch va dépasser la Wii, d'ailleurs, dans pas très longtemps. Mais c'était un beau succès. Bon, moi, après, pour être tout à fait transparent, j'ai toujours été plus Team Sony que Microsoft, mais quand même, mais bel ça, hommage, on peut rendre hommage
problème,
à cette console.
C'est le problème aussi, c'est que en fait, Microsoft n'a jamais réussi à devancer Sony.
Aux États-Unis, ils ont toujours été très forts, mais c'est vrai que dans le reste du monde, Sony domine largement. Ouais.
Ils ont failli sur la 360.
Ils étaient pas loin.
Concurrent sérieux, mais l'échec de la Xbox One à son lancement a pour moi un peu enterré leur capacité à rivaliser.
Et puis on se rappelle aussi de l'achat des studios, des exclusivités Microsoft, déroulé comme un rouleau compresseur, acheter tous les jeux qu'il fallait, enfin voilà, et toutes les... On très bien.
Très grosse franchise, là. Ils ont sorti... Enfin, il y a Halo, il y a
ils
ont acheté Bethesda il y a pas longtemps, ils multiplient. Non, je pense vraiment que Microsoft va prendre une place encore plus grosse dans le secteur du jeu vidéo dans les prochaines années. Hein. Ils sont en train de... Plein d'exclusivités, ils sont en train de récupérer les exclusivités qui avant cartonnaient chez Sony aussi. Donc, il y a de grandes chances que la Xbox soit tout sauf, sauf morte.
Si on parlait de Tesla, les amis...
Bien sûr.
Et enfin, on va rire. Nous, oui, parce qu'on n'a pas de Tesla. Enfin, perso, moi, j'en ai pas.
Encore des petits trous.
Mais c'est ça. Le poinçonneur des Tesla. Je suis le poinçonneur des Tesla.
Oh, pas mal. C'est pas mal. C'est bon, ça.
Je ne sais pas pourquoi je sors ça d'ailleurs. Qu'est-ce qui s'est passé, Nicolas, avec les Tesla?
Oui, je dis on va rire, mais je veux rassurer tous les gens qui sont fans de Tesla, qui je sais, bon, c'est quand même une grosse communauté. Je suis aussi fan de Tesla.
Oui, vous aussi,
le
dis. Bien sûr.
Bah, je ne rigole pas de Tesla du tout. J'en rêve d'en avoir une. Oui. J'espère un jour.
C'est pour ça qu'on est un peu médisant sur Tesla, parce qu'on rêve d'en avoir
c'est
une.
Ça, c'est
pour
on est, ça. On est un peu jaloux.
On fait partie des haters.
Vous avez de la chance si vous en avez une.
C'est ça, en fait.
Bon, exactement. On est des faux haters.
C'est ça.
L'actu qui est assez amusante de cette semaine, elle concerne la pénurie des composants qui contraint les constructeurs du monde entier à faire de nombreuses concessions. On a vu par exemple chez certaines marques comme BMW la disparition de l'écran tactile du tableau de bord, la disparition de la pédale qui permet d'ajuster l'orientation du siège. Et chez Tesla, on a fait quelque chose de complètement inédit. C'est que normalement, vous avez deux ports USB-C à l'avant, deux ports USB-C à l'arrière sur ces voitures. Eh bien, il y a des gens qui ont acheté une Model 3 ou une Model Y qui ont eu une Tesla avec des trous à la place des ports. Vous avez vraiment le
gars
châssis
qui dit,
habituel.
Tiens, j'ai rechargé,
mais c'est
cool.
Comme ça que les gens ont découvert. C'est ça qui est génial. Ah, c'est que Tesla ne les a pas informés de cette... cette absence de pièces, ils leur ont livré la voiture et on a plein de témoignages sur Reddit, sur des forums spécialisés Tesla, de gens qui disent voilà, j'ai voulu recharger mon téléphone et il y avait des trous, j'ai rien pu brancher et finalement Tesla leur dit ah, dès qu'on a la pièce, on vous la mettra, il n'y a pas de souci, mais il n'y a eu aucune communication et c'est la mauvaise blague pour tous ces gens qui attendaient leur voiture depuis 6 mois et qui se retrouvent avec une voiture qui ne peuvent pas, qui peut pas connecter leur téléphone.
Tesla était relativement, on va dire, privilégiés, protégés de cette pénurie de semi-composants, et bien même eux, voilà, en sont victimes. Ouais. Et ils préfèrent sortir une voiture avec des fonctionnalités en moins, mais voilà, que de se dire, bah écoutez, voilà, il manque deux ports USB-C, vous allez me garer 10 000 Tesla là, qui sont dans le parking, on va attendre de les recevoir.
Je pense que c'est le bon choix d'un point de vue stratégique.
C'est sûr.
Mais en termes de communication,
c'est
clairement,
vrai,
ils sont
foirés.
Dites-le. Les gens, et tu le dis. En plus, s'il l'avait dit, je pense que pour le coup, c'était même plutôt positif.
Mais bien sûr.
Voilà, c'était genre,
écoutez, vous avez votre voiture, il manque ça.
Et vous les envoyez qu'on les a.
Peut-être qu'il manque d'autres choses que les gens n'ont pas encore découvert, vous voyez. Genre le volant.
Il n'y a pas le frein.
Il paraît qu'il y en a même eu, qui a eu une Tesla sans batterie. Il avait du mal à
avancer. Mais
il était super pratique. Non, mais c'est ça. C'est vraiment. Il faut communiquer dans ces cas-là. Mais c'est marrant parce que c'est vrai qu'ils s'en sont beaucoup mieux sortis que les autres. Enfin, il faut rappeler quand même que le mois dernier, Tesla Model 3, c'est la voiture la plus vendue en Europe. C'est-à-dire qu'ils ont délivré.
C'est impressionnant.
C'est impressionnant. Ils s'en sont vendus plus que des Clio, plus que n'importe quelle voiture thermique. Donc ça veut dire que non seulement elles sont très populaires, mais en plus, ils arrivent à les délivrer, à les sortir des usines. Mais bon, voilà. Donc s'il manque juste le port USB, bon, c'est pas dramatique. Ouais. S'ils préviennent.
Dans un instant, tu vas nous parler de ton masque qui est à côté de toi, pour tous ceux qui sont avec nous en audio ou à la radio. Anthony va chausser dans un instant un masque très étonnant. Mais juste avant, j'aimerais qu'on revienne sur une autre actualité intéressante de Netflix, qui en général est très avare de chiffres sur l'audience en fait, de ses séries et de ses films. C'est d'ailleurs assez frustrant, parce que quand on voit les classements des séries sur Netflix, on dit est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est du fake, est-ce qu'ils ne poussent pas finalement les produits qu'ils ont envie de pousser. Et bien là, visiblement, un peu comme Apple, changement de stratégie.
Oui, il y a un effort de transparence avec le lancement d'un site que vous voyez si vous nous regardez en vidéo qui s'appelle Netflix Top 10, qui permet de consulter chaque semaine, il va être mis à jour tous les mardis, les séries, les films qui ont le plus cartonné pays par pays. Et ce qui est très intéressant là-dedans, c'est qu'il y a une évolution de la méthodologie, de la manière dont Netflix compte justement les séries les plus populaires. Jusqu'à maintenant, ils n'étaient pas clairs. En gros, si vous regardiez 30 secondes d'un épisode, on disait que vous avez vu la série. ce qui n'était pas forcément vrai. Ouais. Là, maintenant, ils vont comptabiliser le nombre d'heures passées devant, devant le produit. Donc là, on voit par exemple que le film Red Notice qui a été lancé cette semaine, il y a 148 720 000 heures qui ont été passées devant ce film. Et c'est ce qui lui permet d'être premier dans le monde. On peut aussi compter pays par pays. On peut voir les films anglophones, les films non anglophones. Moi, je vois une seule limite à ça. C'est que dans le classement, j'ai trouvé aucun contenu qui n'est pas produit en exclusivité par Netflix. Donc, je pense que ils l'ont pas précisé, mais que c'est uniquement que les productions le classement Netflix. Leur production originale. Ce qui est logique, hein, parce que par exemple, une série comme Friends, qui à mon avis est numéro 1 en France sur beaucoup de secteurs, aux États-Unis, c'est HBO Max qui la diffuse. Donc, est-ce qu'on peut vraiment faire un classement si on parle de productions qui sont pas dispo partout ?
Il y a pas, c'est pas des donc, classements localisés pour chaque pays.
On peut les classements localisés, mais ils mettent que les productions originales dedans. Donc, j'ai l'impression que parce que ça, en fait, il y a plein de comparaison. On va vous dire en France, la série la plus populaire, c'est un tel, et on va vous dire, et elle aussi la plus populaire dans tous ces pays-là. Mais ça, en fait, ils ne pourraient pas le faire s'ils prenaient une série dont ils n'ont pas les droits mondiaux. Donc il y a une limite, hein. Il y a un effort de transparence qui est évident, mais ça ne va pas vous dire que The Office ou que Friends fait mieux que les séries originales Netflix.
Il y a une autre limite, je trouve, dans cette méthodologie, c'est que je n'arrive pas à comprendre la pertinence de cette métrique du nombre d'heures visionnées, dans le sens où tu as des séries où tu vas avoir 24 épisodes d'une heure, donc forcément tu vas être susceptible de passer beaucoup plus d'heures sur cette série-là, alors que l'autre il y a 6 épisodes de 45 minutes.
C'est vrai que ça biaise quand
donc,
même.
Donc je vois pas en quoi ça peut être pertinent.
Les films de 3 heures, du coup, on voit déjà dans le classement films qui sont avantagés.
Ah ouais, c'est logique. Donc je veux dire, une métrique pertinente, ce serait de prendre le nombre de foyers qui ont regardé telle ou telle série, le nombre d'épisodes regardés peut-être, mais le temps passé à visionner, ça me paraît quand même un peu limite.
Alors, Pierre Thuléen, qui réalise cette émission et qui est juste de l'autre côté de la régie, vient de m'envoyer un SMS pour me dire qu'il y a Jumanji dans le classement, qui n'est pas une production Netflix. Ah. Donc, voilà.
Alors, je ne
visiblement,
sais pas. C'est étonnant. Ouais.
Voilà, il s'ouvre à tous les contenus.
Parce
c'est
bizarre,
intéressant,
que le top 10 affiché
creuser.
Sur Netflix.com est différent du top 10 sur ce site. Donc, il y a toutes les productions non originales ont disparu, mais Jumanji, c'est certainement une exception. Donc, je ne sais pas. Je sais qu'il y a un accord d'exclusivité entre Sony et Netflix, donc ça peut expliquer des choses. Mais c'est vrai que c'est étonnant. Bon. Faudrait savoir ce qu'il en est exactement.
Est-ce qu'il y a Hannibal Lecter dans
j'ai croisé Anthony tout à l'heure, j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc.
Alors si vous êtes avec nous à la radio ou en podcast audio, d'un coup vous vous dites qu'est-ce qui se passe, il a mis sa main devant la bouche, non, en fait Anthony s'est chaussé d'un masque assez étonnant, c'est le Razer.
C'est ça. Alors oui, on était dans les casques de réalité virtuelle tout à l'heure. Là, on est dans les masques anti-Covid. Hein, donc, c'est vraiment les deux côtés du visage. Alors, tu combines les deux, là, vraiment, c'est le combo parfait. Mais oui, c'est le...
Tu veux nous stresser avec la cinquième vague qui arrive, en fait, c'est ça. Merci beaucoup.
Je te remercie. J'ai plus peur que les autres, la cinquième vague.
C'est la vague, c'est la grosse vague.
C'est là pour pas rigoler, je vais rester à la maison.
Là, je suis vraiment paré à tout affronter. Alors, effectivement, Razer, vous en souvenez peut-être, avait présenté lors du dernier CES un masque de protection. Alors, ils le baptisent pas anti-Covid d'ailleurs parce que techniquement, et c'est important de le noter, il n'a pas été testé contre le Covid. Voilà. Donc, alors c'est un masque N95, donc avec des bonnes capacités de filtration, mais voilà, pour être tout à fait précis, il n'a pas été testé contre le Covid, même si a priori ça fonctionne aussi contre le Covid. Alors, pour le décrire, effectivement, c'est un mélange entre Hannibal Lecter, Bane dans Batman
Et la mouche.
Il y a Bane,
et la mouche,
voilà. Donc c'est vraiment ça. Donc en gros, par rapport aux masques textiles ou papier ou chirurgicaux qu'on a aujourd'hui, il y a vraiment une grosse structure en plastique, tu as deux gros ventilateurs sur les côtés, et puis tu as le système RGB, c'est-à-dire les petites loupiottes que tu as sur les souris et les claviers rétroéclairés de Razer, et que tu retrouves sur ce masque, alors qu'il donne un look. Bon, écoute, je vais te dire, moi, pour être tout à fait honnête...
Tu vois, tout dépend où tu es, je suis sûr que tu vas en boîte avec ça, tu arrives, tu te synchronises avec les couleurs et tout qu'il y a sur la piste de danse, c'était nickel.
Ah bah oui, ou dans une compétition e-sport, en LAN, tout ça, ça passe nickel. Ouais. Mais par contre, je voulais le tester dans le métro en me disant, bon, je vais voir un petit peu comment je me suis dégonflé, c'est-à-dire je me suis dit, les gens vont me prendre pour... Ils vont me dire, mais c'est quoi, c'est un terroriste, les gars. Non mais franchement, tu te dis, mais c'est pas possible, tout le monde va me regarder comme un fou. Et effectivement, non, je me suis dit, je vais pas le tester. Alors après, il a quand même des points positifs, c'est que tu as des ventilateurs à l'intérieur, ce qui permet d'éviter les problèmes de buée sur les lunettes. Alors, pour les porteurs de lunettes,
ça c'est vrai,
c'est
ça
génial.
C'est vrai. Nous, on est vraiment visé.
Ça fonctionne super bien, ça, de ce point de vue-là, ça fonctionne bien. Il est transparent aussi, donc tu peux voir le visage et le sourire de ton interlocuteur.
Qui est un peu déformé quand même, l'ensemble.
C'est assez sombre, en tout cas de là où je suis.
C'est vrai, même si c'est éclairé par les petites loupiottes, mais enfin bon, c'est pas forcément idéal. Mais voilà, le gros point négatif, c'est quand même le look de ce masque.
Et ça coûte combien, cette...
Qui coûte une centaine d'euros et qui est en rupture de stock totale. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de demandes.
Est-ce qu'il ne te sert pas trop les petites ficelles, ne te sert pas trop les oreilles? Parce que j'ai l'impression que ça te déforme un peu les oreilles aussi.
Alors c'est peut-être moi qui l'ai mal mis, parce que normalement tu mets un petit peu plus haut. Donc c'est moi qui l'avais mal mis. Par contre, c'est vrai qu'il est, forcément, vu sa structure, il est plus lourd qu'un masque classique. Et donc, du coup, c'est quand même
un peu encombrant. Au bout d'un moment, t'as un torticolis,
quoi. Ouais, c'est ça. C'est pas assez la vie. Mais je trouve que c'est intéressant. Au-delà du gadget, c'est le côté. Toutes les grands groupes high-tech, là, sont en train de s'emparer, en fait, de ces masques anti-Covid. Razer, c'est le cas. LG, on avait présenté un également. Il y a aussi, je sais plus quel chanteur qui avait. Will.i.am aussi, qui est aussi un entrepreneur. Qui avait lancé un masque, qui était un peu l'iPhone du masque.
Et à mon avis, il va bientôt débouler dans le métaverse. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça fait 20 ans qu'il doit être dans le métaverse. Hein,
probablement, je pense. Avec Kanye West.
Top. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Nicolas.
Merci François.
Journaliste à 01net.com. Et puis Anthony Morel, que vous êtes très nombreux à apprécier dans De quoi je me mêle.
Visiblement,
on a des petits messages, tout comme Nicolas d'ailleurs aussi. On revient dans un instant à la suite de De quoi je me mêle avec un focus sur Enki, qui est la branche maison connectée de.
Le roi Merlin.
Bravo. Même avec son masque, il est toujours pertinent, Anthony. C'est formidable. À tout de suite. Merci d'être là.
BFM Business et 01 TV présentent De quoi je me mêle. François Sorel.
Le retour de quoi je me mêle sur tous vos écrans, bien sûr, je le disais tout à l'heure, hein, sur 01 TV la chaîne, 01net.com, la chaîne YouTube de 01 TV, et puis le week-end sur BFM Business, à la radio, à la télé. On va parler maintenant de maison connectée. La maison connectée, c'est vrai qu'on vous bassine sur ce sujet depuis de très nombreuses années maintenant. Hein. Où en est-on, tiens? Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a des acteurs qui n'étaient pas spécialisés dans la tech, s'intéresser à ce sujet. C'est le cas de Leroy Merlin, voilà, grande enseigne de bricolage, entre autres, hein, et de la maison, qui, il y a quelques années de cela, a décidé de se lancer dans l'expérience de la maison connectée. Et vous verrez que petit à petit, Leroy Merlin est en train de creuser son sillon dans ce domaine. Et on va en parler avec mon invité, Laurent Glaser. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de la stratégie Maison Connectée chez Leroy Merlin.
Oui.
Et peut-être, si vous êtes, tout comme beaucoup de Français, un fidèle de cette enseigne, vous l'avez remarqué, hein, il y a tout souvent des corners Enki, la maison connectée de Leroy Merlin. Parce que c'est vrai que ça paraît quand même assez pertinent dans un grand magasin où on parle de maison, de sensibiliser en fait tous vos clients. Eh bien, la maison connectée, Laurent, c'est ça hein, l'idée de départ.
Oui, absolument. C'est-à-dire que Leroy Merlin est l'enseigne référence hein, au niveau de l'habitat en France et d'ailleurs en Europe du Sud. Et en fait, notre idée était de... On avait constaté assez rapidement qu'un certain nombre de produits devenaient connectés. Donc certains l'étaient nativement, d'autres en revanche pouvaient devenir connectés et que ça apportait une véritable utilité aux habitants. Donc sur beaucoup d'usages, en fait, c'est-à-dire au début, c'était généralement sur la sécurité. Je pense que beaucoup de Français et d'habitants, en fait, ont des alarmes qui sont connectées, mais aussi sur la gestion des ouvrants, sur le confort, les caméras, sur l'éclairage. Et donc, nous nous sommes dit que clairement, il y avait quelque chose qui pouvait être utile aux habitants. Et ce que l'on avait constaté à l'époque, c'est qu'en fait, il y avait pléthore de solutions, mais il n'y avait pas une solution vraiment centrée habitat et habitants et qui permettait d'offrir, à travers une seule application, la couverture de tous les usages de la maison. Parce que je pense qu'il n'y a rien de pire quand même quand on est chez soi, de se dire, quand je veux éteindre ou allumer ou jouer avec les couleurs d'une ampoule, je suis sur une application. Quand je veux partir de chez moi et couper le chauffage et le radiateur pour faire des économies, je vais utiliser une autre application. Donc, il y avait nécessité à avoir une application qui soit centrée habitant et pas uniquement centrée usage.
Avec une box qui est sortie il y a quelques années de cela, qui était la box Enki, qui elle justement était là pour rassembler tous les protocoles, parce que c'est ce qui fait que la maison connectée a du mal à décoller aussi, hein, c'est que vous achetez ce type d'ampoule, elle marche qu'avec tel système, vous voulez avoir une caméra, vous pouvez la télécommander qu'avec une appli liée à la caméra, vous vous êtes dit, on va mettre tous les protocoles à l'intérieur d'une box, ce qui fait que... En fait, via l'appli Enki, je vais pouvoir commander tous mes systèmes connectés de la maison. C'était ça le départ. Hein.
Oui, tout à fait. C'était ça le départ. C'était de se dire comment vivent les gens, quels sont leurs scénarios de vie. C'est-à-dire que pour certains, ils vont être sur un usage qui va être très simple. Hein, et pour d'autres, ils vont vouloir faire parler en fait tous ces produits pour être calés sur leur vie à eux. Mmh. Comme je pars de la maison, j'arrive, ou je pars en week-end, ou je me couche, je me lève. Et donc, il fallait quelque chose qui puisse, je dirais, interconnecter tous ces grands usages au sein d'une application. Mais là où je voudrais te reprendre, François, oui. C'est lorsque tu dis que la maison connectée ne décolle pas. En fait, ce que l'on voit depuis un peu plus d'un an maintenant, c'est qu'il y a un mouvement qui est en train de s'opérer. Dans un premier temps, il y a environ 3-4 ans, tu as raison, c'est-à-dire qu'on avait des habitants qui étaient vraiment passionnés de la maison connectée, qui disaient « là, ça va être le Graal pour moi, ça va vraiment être très sympa, je vais faire rentrer la techno dans la maison, et puis ça va être très très utile ». Ce qui est clair, c'est qu'on n'est pas arrivé à un mouvement de masse où l'intégralité des habitants se dit « je veux absolument que ma maison soit intelligente ».
Ce qui est normal, cela dit. Il y a des gens qui s'en fichent, d'autres
rien de surprenant. Rien de surprenant.
Voilà.
En revanche, le gros mouvement que l'on voit, c'est que la fonctionnalité de connectivité, donc le fait de pouvoir piloter un produit, est en train d'arriver dans une grande majorité de produits que l'on vend chez Leroy Merlin, et que ce qui intéresse les gens, finalement, c'est d'être focalisé sur leur usage et d'avoir en plus cette fonctionnalité de pilotage. Et donc, autant la maison connectée dans sa globalité n'est pas encore arrivée à l'apogée, en revanche, le nombre de produits qui offrent cette fonctionnalité en plus, lui, est en train de se démocratiser et à vitesse grand V.
Et puis, il ne faut pas se voiler la face. Il y a l'interface vocale qui commence vraiment à être poussée par les géants américains, que ce soit Google, Alexa, et voilà. Et puis, ça change la vie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a goûté à ces technologies-là, difficile de revenir en arrière. Hein. Quand on pilote l'éclairage de son salon ou de sa télé avec la voix ou ses volets électriques, c'est quelque chose qui marque et c'est difficile après d'arrêter tout ça. Quoi.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'au niveau du pilotage de ces produits, il y a un pilotage qui peut se faire par l'application, mais lorsqu'on est chez soi, on n'a pas forcément envie de sortir une fois de plus son téléphone pour pouvoir tout piloter. Donc on peut le faire aussi avec des télécommandes, avec des boutons, avec des scénarios qui sont automatisés. Mais un des gros mouvements depuis 2 ans, tu as raison, c'est au niveau de la voix. Et nous c'est ce qu'on constate avec les habitants qui utilisent la solution Enki, c'est qu'ils vont utiliser Google Home et ils vont utiliser Alexa pour piloter. Ça rend bien des services et à mon avis, on est vraiment au début de l'histoire.
Tout à fait. Alors, la nouveauté, parce que vous êtes là aujourd'hui pour nous annoncer une nouvelle box,
oui.
Beaucoup plus abordable que l'autre,
oui.
Qui est plus simple aussi, qui se focalise pour débuter sur l'éclairage connecté, parce que c'est vraiment peut-être la porte d'entrée la plus évidente et la plus simple à mettre en œuvre pour une maison qui n'a pas encore, en tout cas pour des clients qui n'ont pas encore franchi les étapes de la maison connectée, quoi.
Tout à fait. C'est-à-dire que ce que l'on a constaté depuis 2 ans, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on avait des clients qui, au début, étaient sur une dimension projet. Donc, je vais sécuriser ma maison, etc. Et aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que c'est un usage simple qui est en train de se démocratiser, et notamment autour de l'éclairage. Alors, ce qui est clair, c'est que la première solution, et qui continue hein, d'ailleurs, qui était proposée par Enki avec sa box multiprotocole, était une bonne solution, mais n'était pas totalement adapté aux habitants qui voulaient juste avoir un usage centré sur l'éclairage. En d'autres termes...
Oui, c'était un peu démesuré, en quelque sorte.
Tout à fait. C'est-à-dire que c'était quelque chose qui pouvait tout faire et qui fait tout, d'ailleurs. En revanche, quand on est uniquement... On se dit, tiens, l'éclairage peut être utile pour moi, pour ma famille, pour ma femme ou pour mes enfants, et je veux tester, et je veux rentrer, mais je veux vraiment être centré dans un premier temps sur cet usage, une box qui faisait tout n'était pas la bonne réponse. Donc, nous avons sorti une box qui est beaucoup plus simple, puisqu'elle va être monoprotocole Zigbee, qui est vraiment parfaite.
Qu'on l'explique, c'est un tout petit truc, une toute petite boîte.
Tout à fait.
On la branche sur Internet, évidemment, bien sûr. On la branche comment? Par Wi-Fi, par câble?
Oui, c'est ça, par Wi-Fi.
Par Wi-Fi, via l'appli Enki, donc sur le smartphone, qu'on peut télécharger.
Oui.
On connecte après les ampoules.
Exact.
Et après, ça marche.
Tout à fait. Tout à fait. Donc, on est sur quelque chose qui est tout petit, qui est assez sympa en termes de design, mais qui est surtout très accessible en prix, puisqu'on va être à 29€ sur ce type de produit. Et donc, là, ça fait sens. C'est-à-dire que si vous voulez rentrer dans l'expérience éclairage, vous achetez une ampoule qui va être autour d'une 10aine d'euros, vous allez rajouter une box Si vous le souhaitez d'ailleurs, c'est-à-dire que ce n'est même pas obligatoire, mais vous pouvez rajouter cette box qui va vous donner en fait une couverture au niveau de la maison qui va être beaucoup plus large et qui vous donne une expérience vraiment 4 étoiles. Et vous allez être sur 40-50 euros pour commencer à équiper votre maison. Donc c'est très centré dans un premier temps sur l'éclairage. Pourquoi ? Bah parce qu'on voit que dans les habitats des Français, l'éclairage fait tout son sens. Hein. Il y a de l'éclairage dans toutes les pièces. Avec l'éclairage, bah on peut avoir une maison qui est plus belle. On peut aussi travailler la sécurité, hein, c'est-à-dire que vous faites de la simulation de présence.
Puis changer les couleurs aussi, hein, c'est
ça. Vous pouvez changer les couleurs. On voit que c'est quelque chose qui commence vraiment à plaire et qui a vraiment du sens pour chacun, dans chacun des habitats.
D'accord. La première étape, c'est donc l'éclairage. Est-ce qu'on peut imaginer des mises à jour de cette box pour s'ouvrir à d'autres fonctionnalités de la maison connectée ?
Oui, ça va être le cas. Donc, nous sommes en train de travailler sur le fait de se dire, voilà, on peut, à partir de cette box, qui est sur une bonne technologie, on va pouvoir couvrir d'autres usages de l'habitat. Et donc, on peut imaginer, sur 2022, d'autres produits et d'autres verticales d'usage vont pouvoir être utilisés avec cette box.
Laurent, alors la question qui fâche, est-ce que, vous n'arrivez pas un peu trop tard avec ce type de produit, parce qu'on voit que tous les géants américains sont là-dessus.
Oui.
Quel intérêt d'acheter votre solution au lieu de prendre Philips Hue, qui marche très bien, qui est peut-être un petit peu plus cher, mais qui est là sur le marché depuis de nombreuses années.
Oui.
À qui vous adressez-vous? Et puis, ce marché est-il toujours pertinent, finalement?
Oui, je pense qu'il est pertinent plus que jamais. D'abord parce que ce que les gens recherchent aussi, c'est de l'accessibilité en termes de prix. Et donc là, vraiment, on peut apporter une solution pour tous les habitants, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient propriétaires, qu'ils soient locataires. Et lorsque vous commencez à goûter en fait à l'éclairage connecté, vous avez envie d'en mettre un peu plus partout. Hein. On sait déjà qu'avec la Box Enki, on est aux alentours des 6 produits par utilisateur. Avec l'éclairage, on passera à 10 ou 15 produits. Donc, il est clair que lorsqu'on rajoute un certain nombre de produits, il faut avoir des prix qui soient très accessibles. Et c'est un peu notre métier chez Laurent Merlin de démocratiser et justement de démocratiser l'éclairage connecté.
Et de s'ouvrir aussi techniquement, parce qu'on voit qu'il y a une espèce de consensus auprès de ces géants américains, les Apple, les Google et Amazon, qui s'apprêtent à sortir en fait un nouveau standard technique qui permettra en fait à n'importe quel produit de n'importe quelle marque de communiquer entre eux.
Oui.
Cette box sera compatible avec ce standard ?
Alors, nous sommes membres de l'Alliance, donc l'Alliance CSA IoT, et donc on suit les choses, et évidemment, on apportera des solutions qui seront compatibles avec la norme Matter. Ce qui est très important pour nous, c'est que, et ce qui nous fait assez plaisir, c'est qu'on sait que le grand enjeu, en fait, c'est de rendre les objets connectés accessibles à tous. Et on sait qu'un des éléments bloquants, c'était la problématique des normes qui était différente, la problématique des applications qui était fermée. Et donc, tout ce qui va permettre, en fait, de démocratiser et de garantir l'accessibilité à tous est quelque chose qui va bénéficier aux habitants et qui, donc, va hyper booster le marché. Donc, c'est le bon moment de le sortir parce que l'éclairage est en train d'arriver vraiment dans tous les habitats. C'est important de le sortir maintenant parce qu'il y a nécessité d'apporter une réponse économique et une accessibilité prix. Et puis, oui, ce sont des produits qui sont aussi complémentaires de ce que peuvent faire les marques référentes. Et nous, on n'a pas vocation à remplacer ces grandes marques, mais à apporter de la complémentarité et du choix à chacun des habitants.
Merci Laurent pour toutes ces précisions. Donc voilà, cette petite box Enki qui est d'ores et déjà disponible. Ça y est, elle est arrivée ?
Elle commence à arriver dans tous nos magasins et sur le site web laurentmerlin.fr ou enkihome.com.
Voilà, et pour quelques dizaines d'euros, vous pouvez vous créer votre environnement d'éclairage connecté. Et croyez-moi, quand on a goûté à ça, surtout si on couple ça avec un assistant vocal, ça change la vie, on apprécie au quotidien. Merci beaucoup Laurent Glaser.
Merci beaucoup.
Rappelons que vous êtes directeur de la stratégie Maison Connectée chez Leroy Merlin. Ce De Quoi Je Me Mêle est terminé. Merci encore une fois, très sincèrement, de nous suivre, que ce soit en audio, en vidéo, sur tous les écrans. Et on sera là, bien évidemment, le week-end prochain. Portez-vous bien et à très vite.
De Quoi Je Me Mêle sur BFM Business et 01 TV.